Bonjour. Aujourd'hui, je vais essayer de lire 3 témoignages. Je ne suis pas sûre de pouvoir le faire, ça dépendra un petit peu du temps au total. Je vais commencer par le témoignage de Carter. J'ai eu la très grande chance d'habiter Boston, une ville universitaire, intellectuelle, pendant les années 60. À 25 ans, j'ai été bouleversée par le mouvement de libération des femmes, si bien que, depuis 16 ans, je suis très concernée par le fait que le corps d'une femme ne lui appartient pas, mais plutôt au médecin. Car les mœurs de notre civilisation occidentale ont systématiquement enlevé à la femme la connaissance, la compréhension, la dignité, le sens de la propriété et de la valeur de son corps. Alors je me suis mise au travail dans le mouvement des femmes, pour changer un peu quelque chose, dans des groupes qui aidaient les femmes, entre autres, à se redécouvrir. Dans ces groupes, j'ai appris ce qui me semble maintenant un fait incontestable. Il y a un seul moment dans la vie de chaque femme pendant lequel elle devrait sentir que son corps lui appartient entièrement. C'est l'accouchement. Mais, et c'est parmi ces femmes que j'ai appris l'importance de ce « mais », c'est justement ce moment-là qui a été spécialement détruit, volé, violé, dégradé par l'inhumanité d'une prétendue médecine moderne. Pendant ce travail, j'ai appris beaucoup de choses ahurissantes et même tragiques au sujet des médicaments qui sont prescrits, souvent sans discernement aux femmes, aussi que les femmes servent souvent, sans le savoir, de cobayes. En outre, surtout pendant la grossesse et l'accouchement, elles subissent des traitements humiliants et sont forcées d'accepter des médicaments qui sont souvent très dangereux pour leur bébé. Aux États-Unis, le taux de mortalité et morbidité néonatale est un des plus élevés du monde occidental. Plusieurs études ont prouvé indubitablement que ce chiffre surprenant est dû à toutes les interventions faites, malheureusement au nom de la sécurité de l'enfant ou de la maman. Accélération par hormones, analgésique, position horizontale nécessitée à son tour par la péridurale, laquelle ralentit les contractions, nécessite les forceps ou plus d'accélération, ou pire encore, des césariennes non nécessaires. Toutes ces techniques d'intervention ont fait monter notre chiffre de mortalité maternelle et néonatale. J'ai appris, par exemple, que tout médicament traverse le placenta, que tout analgésique, toute anesthésie touche le bébé, souvent avec des résultats dramatiques. Avec d'autres femmes, je proteste contre le pouvoir des médecins pour essayer de réveiller la conscience de ces malfaiteurs. Et en effet, petit à petit, les femmes et les parents aux USA ont apporté des changements, et au moins des alternatives à la médecine au pouvoir. Quant à l'âge de 36 ans, je me suis trouvée enceinte, et en France, j'étais folle de joie. Non seulement j'allais être mère, après toutes les années où je n'avais pas pu, ou pire, en nier le besoin et le désir. Mais en plus, j'avais la chance d'être dans le pays de Lamaze et de Le Boyer, le pays qui a vu naître les méthodes les moins interventionnistes qui commencèrent dans les années 60 et à se développer dans les grandes villes américaines. En France, pensais-je, cela serait encore plus facile de vivre un accouchement où la responsabilité du couple, en ce qui concerne le corps et en ce qui concerne le nouveau-né, serait pleine et entière. Ici en France, on pourrait voir naître notre enfant sans aucun médicament pour me troubler la tête, me droguer, et plus important, sans médicament qui risque d'affaiblir mon enfant, ou même de l'atteindre plus gravement. Ici, nous pourrions faire naître notre enfant nous-mêmes. Quelle illusion! J'ai beaucoup cherché. J'ai consulté une demi-douzaine d'accoucheurs, adeptes du prétendu accouchement sans douleur, et j'ai choisi le meilleur. Je ne vous raconterai pas tous les détails sordides. Chacun connaît trop bien les histoires de perfusion, accélération, forceps, position horizontale. Cet accouchement m'a laissée démoralisée, honteuse, furieuse, amertume, déprime. J'éprouve encore aujourd'hui, 6 ans plus tard, un féroce ressentiment à l'égard de mon accoucheur menteur qui m'a enlevé toute dignité. Ce cauchemar me restera toute ma vie. Quand j'ai été enceinte pour la deuxième fois, c'était comme si une autre chance m'était accordée pour retrouver cette dignité perdue. Peut-être était-ce encore possible de ressentir ce moment d'extase qui m'avait été arraché si brutalement lors du premier accouchement. Grâce à mon travail avec des femmes, des mères et des enfants à travers la Leche League, comme animateur d'un groupe qui aide les enfants, qui aide les femmes à allaiter leurs enfants, j'avais entendu parler de Pithiviers et j'y suis allée pour voir si l'accouchement dont je rêvais, que je savais possible en certains lieux des États-Unis, pouvait exister en France. Je n'ai pas été déçue cette fois, malgré les difficultés de communication avec le docteur Audan qui décidément trouvait toutes mes questions techniques inutiles ou déplacées. Il voulait, je le comprends maintenant, me permettre de trouver ma propre façon d'accoucher, au lieu de me promettre quelque chose que je ne pouvais pas comprendre avant d'accoucher librement, sans recours à une méthode proscrite. À part ce malentendu qui s'éclaire maintenant, l'accouchement était tout ce que je pouvais rêver. Et plus encore, mon mari, ma mère et mon fils de 4 ans ont pu y participer eux aussi, et comme ils ont aimé le faire. Au moment de l'accouchement, j'ai pu vraiment vivre ce que mon corps et mon âme avait depuis tellement longtemps besoin de ressentir. J'ai rencontré ma puissance, les limites de mes propres talents. J'ai fait la connaissance de moi-même pour la première fois de ma vie. La douleur, qui était effectivement plus forte sans analgésie ni respiration spéciale, était 1000 fois plus supportable parce que je pouvais bouger, crier, marcher à quatre pattes, serrer mon mari et ma mère contre moi. L'incertitude, la peur, l'angoisse, les craintes pour la santé de mon bébé étaient d'autant plus fortes que je connaissais trop bien les problèmes concernant les bébés qui reçoivent toutes les drogues de notre siècle au cours d'un accouchement traditionnel. Ce qui a calmé toutes ces peurs, c'est que je faisais ce que je voulais, sans qu'on me dirige, sans qu'on me reproche de ne pas me tenir, sans qu'on me fasse croire que mon corps ne savait pas comment faire ou n'était pas à la hauteur de ce moment si important. Mon deuxième enfant est venu au monde sans aucune autre aide que l'affection et le soutien de mon mari et de ma mère, tous les deux à mes côtés. Le personnel nous laissa tranquilles jusqu'au moment de l'expulsion, où il fallut quand même que la sage-femme vienne attraper le bébé qui tomba si miraculeusement de mon corps. J'estime que chaque femme a le droit de trouver ses propres ressources, sa propre dignité dans un accouchement où on ne nie pas ses choix personnels dès le début. Connaître le moment d'extase où, avec toutes les forces dont on est capable, on met au monde soi-même, son enfant, est une chose que personne ne doit pouvoir enlever aux femmes. Il faut absolument qu'il y ait d'autres pitiviers à travers le monde où les femmes puissent souder leur âme et leur corps, une fois pour toutes, avec une telle force de conviction que personne, ni médecin, ni sage-femme, ne puisse leur dérober cette redécouverte et cette réappropriation. 2 ans se sont maintenant écoulés depuis ce témoignage. La seule chose à ajouter à tout ce qui a été joliment écrit ailleurs sur Pithiviers, sur sa liberté et son optique de non-intervention, et le rôle important que joue le chant. J'aime bien le fait qu'il n'y ait pas de véritable préparation à Pithiviers. Les cours traditionnels, qui ont pour base l'idée que sans ces cours, la femme est incapable de bien accoucher, sont remplacés par l'encouragement à se familiariser avec les lieux et à favoriser ainsi les capacités innées d'accoucher. Mais il m'a fallu longtemps pour le comprendre. Quand on me l'a proposé, la soirée de chant m'a semblé inutile, une perte de temps. Aller de Paris à Pithiviers, la nuit, en plein hiver, avec un enfant de 3 à 4 ans. Et pourquoi faire? Mais que de bonnes surprises. Les soirées de chant furent pour moi la révélation de toute l'optique qui régit Pithiviers. C'est-à-dire qu'on ne subit pas le poids d'une hiérarchie. La puissance médicale qui domine, la maman quelque part beaucoup plus bas. Et pour finir, les pères et les filles de salle. Ici, mère, père, enfants de tous âges, sage-femme, médecin, chante, danse, maladroitement ou joyeusement, mais au moins tous ensemble, bercés des mêmes vieilles chansons que tous connaissent. J'étais extrêmement touchée le premier soir par ces bébés de quelques heures à peine, bercés par ces mélodies et ces rythmes. Il n'y avait pas cette sempiternelle crainte des germes et des microbes. Le son de nos voix, fortes ou moins fortes, le son du piano, traversant mon corps et celui de mon bébé à l'intérieur comme des rayons chauds. Je crois que c'est là que j'ai bien ressenti ce que représente Pithiviers. Odan est là, chantant lui aussi, comme un père timide, sans autorité. Ma dernière séance de chant a eu lieu le soir de la naissance de mon bébé. Je me dis maintenant que ce n'était pas un hasard. Après 4 jours d'attente sur place et un travail qui n'en finissait pas de ne pas évoluer, le découragement m'assaillait. J'avais d'ailleurs demandé à Odan dans l'après-midi si je pouvais prendre un peu d'huile de foie de morue pour accélérer les contractions. Il m'avait répondu que ça pourrait me donner mal au cœur, alors qu'il serait si bon de se sentir en forme pour la naissance. Sa réponse m'avait sidérée par sa logique, mais n'avait pas effacé l'anxiété quant au sort de ce bébé qui n'arrivait pas. Mon mari était reparti à Paris, par pure impatience, avec mon fils aîné, et j'étais restée plantée là, avec un sentiment de foirade, avec à mes côtés ma chère et dévouée mère, qui ne parlait pas un mot de français. Les contractions s'étaient encore une fois complètement arrêtées. La soirée de chant commença avec la rituelle installation des futures mamans autour du piano. J'étais devenue une vieille habituée. Je connaissais maintenant quelques-unes des chansons par cœur. Lorsque la musique commença, ce soir-là, je commençais à pleurer. Je sanglotais si fort que je dus quitter la salle. Je pleurais comme un enfant, comme jamais je ne le fis durant ma vie adulte. Des cascades de sanglots, des larmes sans fin. Chaque fois que je retournais au chant, les sanglots me reprenaient. Je me souviens qu'une sage-femme néerlandaise en visite sortit dans le couloir pour me tenir dans ses bras et me bercer. Et puis ma mère vint aussi. Ce gros corps énorme fut bercé par ces femmes si petites et par la musique qui remplissait la maternité et mon âme jusqu'au moment où je sentis qu'était enfin finie en moi cette douleur des années où j'étais réprimée moi-même. Il ne restait que la musique, réparatrice et apaisante. Le bébé naquit cette nuit-là. Depuis, il m'arrive que certaines musiques provoquent cette même émotion profonde, comme si la musique avait pénétré le lieu de mes craintes, ce fameux subconscient, d'où nous viennent nos souvenirs les plus forts, mais pas tout à fait tangibles. Et le sentiment éblouissant d'exister pleinement en jaillit. Depuis, j'ai une bien plus grande facilité à contacter le siège de tous ces sentiments sur la vie, la mort et la peur. Tout simplement, désormais, je vis. Voici maintenant le témoignage de Françoise. Lorsque l'on demandait où j'allais accoucher, que je répondais à Pithiviers, on me regardait étonnée. À part pour ces gâteaux, peu de gens ont entendu parler de cette ville et encore moins de son hôpital. Oui, on avait vaguement entendu parler d'accouchement dans l'eau ou dans le noir. La rumeur, comme chacun sait, transforme la réalité en se fixant sur un détail qu'elle amplifie. En fait, pourquoi ai-je accouché deux fois à Pithiviers, en avril 1981 et en juin 1982? Je désirais avoir des enfants, mais l'accouchement me faisait tellement peur que je reculais toujours la possibilité de devenir mère. J'entendais la plupart de mes amis et connaissances qui me racontaient des choses horribles sur l'accouchement. Souffrance, sentiment d'humiliation, d'être un numéro, de ne pas être prise en considération, de ne pouvoir rien faire devant le corps médical qui vous dicte un comportement, etc. etc. De plus, j'avais l'impression que le pauvre nouveau-né n'était pas beaucoup mieux traité, même s'il y eut beaucoup de progrès dans certains hôpitaux et cliniques, et que rien ne favorisait les premiers contacts mère-enfant. Et enfin le père, même s'il était là, n'avait qu'un rôle de spectateur, ou au mieux, pouvait vous soutenir le moral, mais devait lui aussi obéir à des ordres stricts et ne pas prendre d'initiative. Tout cela dans une atmosphère d'hôpital, avec tout ce que ça entraîne de non-affectivité, de froideur et de sentiment d'être malade dans des locaux qui peuvent difficilement être différenciés d'une salle d'opération. Pourquoi aurais-je volontairement fait quelque chose qui m'aurait mise dans la situation que je déteste le plus ? De plus être maîtresse de mon propre corps dans un milieu où, en général, on va malade, et même si le personnel est charmant, on vous traite comme tel. Le bébé étant, lui, traité comme un produit fini, arrivant en fin de chaîne, j'ai entendu cette expression d'un grand patron. Et qu'il fallait qu'il sorte au bout de 8 jours, avec le label, tous les organes de la machine en fonctionnement, pour le service après-vente, adressez-vous dans un autre centre. Puis je suis tombée par hasard sur les cahiers du nouveau-né, qui m'ont fait entrevoir qu'on pouvait traiter le bébé autrement, même dans une maternité. J'ai lu ensuite Frédéric Le Boyer, qui m'a convaincue de l'importance de la naissance, de cette première relation, et m'a beaucoup émue. Mais même si on s'occupait du bébé de façon plus humaine et plus intelligente, il fallait encore accoucher. La péridurale, même si elle supprime la douleur, vous met dans une situation encore plus dépendante des médecins et du personnel médical. Et il me semblait qu'accoucher était un acte pleinement humain, où se mêlait affectivité, sexualité. C'est un acte de vie où toute la personnalité de la femme et du couple est en jeu. Être anesthésié de la moitié de son corps, bardé d'aiguilles, la péridurale, la perfusion plus le monitoring, voilà pour ne pas permettre de s'exprimer beaucoup avec son corps et ses émotions. De plus, il fallait se trouver allongé sur le dos et les pieds dans des étriers. Position la plus inconfortable que je connaisse et qui vous met dans une situation de passivité et de dépendance qui s'accorde mal avec mon caractère. J'ai ensuite découvert Pithiviers grâce aux 2 livres du docteur Audan. Je dois dire que ces livres ont transformé ma vie. Il existait une possibilité de donner naissance à ce bébé que je désirais profondément, en étant moi-même pleinement active, en essayant de retrouver au fond de moi-même ces possibilités de mettre au monde qui existent chez tous les mammifères, sans être dirigée, contrainte, muselée dans ma façon de m'exprimer, et en retrouvant la position qui me semblait être la plus naturelle, accroupie, alors que se trouver allongée pour accoucher me semblait être une hérésie. Il a fallu convaincre mon mari, qui, médecin, voyait tous les risques. En médecine, on ne parle que de risques, hein, quitte à les augmenter si on peut les réparer par la suite. Nous sommes donc allés là-bas, et nous avons discuté et visité. Petit hôpital de province, la maternité n'a rien d'extraordinaire. Si ce n'est cette salle de naissance où l'on se sent bien, une petite piscine où l'on peut se détendre, et une atmosphère humaine et sympathique. Et de plus, des statistiques quant au taux de mortalité périnatale de césarienne les meilleures de France. De quoi faire réfléchir. J'ai donc eu mes 2 bébés à Pithiviers et j'en suis ravie. Ces 2 naissances font partie des plus beaux souvenirs de ma vie. Nous les avons vécues, mon mari et moi, pleinement, avec tous nos sentiments, notre amour et nos désirs. La sage-femme et le docteur Audan nous ayant accompagnés sans jamais s'imposer, tout en restant vigilants et efficaces. Tout ce qui s'est passé correspondait à ce que j'attendais. Bien que mon premier accouchement ait été long et difficile, j'ai vécu ces moments extraordinaires. La souffrance n'est plus le problème. C'est vrai qu'elle existe et que l'on crie, mais elle est vécue, ou tout du moins je l'ai vécue, de façon tellement différente d'une souffrance autre que l'on ne va pas contre, mais avec. Elle fait partie de ce que l'on vit, de ce moment de l'existence qui est certes violent, mais merveilleux aussi. J'ai parlé de mon vécu, on peut aussi regarder ce qui se passe à Pithiviers sur un plan plus technique. Moins de problèmes pour le bébé, très peu d'épisiotomie et un taux de césarienne très bas. Tous les arguments contre l'accouchement accroupi ne tiennent pas face à l'expérience de Pithiviers, mais ce n'est pas mon propos ici. Toutefois, on peut se demander pourquoi les obstétriciens, français surtout, sont tellement contre. Pourquoi cette expérience de Pithiviers, qui est positive en tout point, soulève tant de polémiques. En conclusion, je voudrais dire deux choses. En premier, je remercie le docteur Audan et son équipe de faire ce qu'ils font face à une hostilité sans fondement du monde médical et de le faire avec compétence et un très grand désir d'aider les femmes, les couples, à mieux accoucher avec sécurité et joie à la fois. Les seules plaintes que j'ai entendues sur cette maternité tournèrent autour du manque de personnel, ce qui est, je crois, commun à beaucoup d'hôpitaux. La deuxième chose est de souhaiter que nous ayons le choix d'accoucher comme on le ressent. Je comprends très bien qu'on soit sécurisé par tout un arsenal médical et que l'on ait peur de son corps et de ses réactions. La péridurale est certainement bénéfique pour certaines femmes. Mais on ne doit pas imposer à toutes les femmes leur façon d'accoucher. Et je pense qu'il faut lutter pour qu'il y ait d'autres endroits où la naissance ne soit pas un acte médical, que l'on peut à la limite programmer comme une banale opération, mais un moment de la vie important où l'on tienne compte de la physiologie et de la psychologie en allant dans le sens de la nature et évidemment en palliant les défaillances. Il y en a, bien sûr, mais jamais de façon systématique, comme les médecins ont souvent tendance à le faire. Place maintenant au chapitre 6, intitulé « Des femmes parlent de la douleur ». On va commencer par un récit de Maryse. En ce qui me concerne, ce n'est pas la respiration rythmée de l'ASD qui m'a fait bien rire, façon de parler, qui a supprimé la douleur. Elle oxygène et fait diversion, et c'est là tout son mérite. Il faut que la parturiente accepte de jouer le jeu. Et si cette dernière a le malheur d'être une intellectuelle, elle n'a aucune chance, dit une sage-femme de l'Ardèche. Certaines femmes accouchent plus facilement que d'autres. La douleur est plus ou moins intense selon les individus. Bassin large, tissu souple, grossesse multiple, seuil de la douleur reculé, décharge d'endomorphine supérieure à la moyenne, moindre sensibilité de la chair. Quelques semaines avant d'accoucher, je ne supportais plus un cheveu sur ma peau. Il est facile d'imaginer l'intensité ressentie pendant les contractions. Dans une salle de concert, personne ne vibre de la même manière que son voisin. De même, aucune femme ne communie avec ses lames de fond des dernières minutes de façon identique à ses sœurs. La sensibilité, arme à double tranchant, fait qu'on ressent plus intensément les choses agréables et celles qui ne le sont pas. J'ai eu 3 enfants. Aucun des 3 accouchements n'a été le même au niveau de la douleur. Une femme n'ayant eu 1 enfant ne possède qu'une information tronquée. À Pithiviers, alors que j'en avais assez d'avoir mal, je réclamais une anesthésie générale, je reniais Michel Audan et sa maternité, je scandais un ultimatum. On me répondait par des silences. 2 heures après, j'avais mon bébé dans les bras. Je l'avais mis au monde, toute seule. Oh, j'avais bien mangé 5 ou 6 sucres, mais je n'étais pas peu fière. Aucune intervention. Michel Audan et son équipe savaient pourquoi j'étais venue à Pithiviers. Ils ont eu le courage de résister à mes injonctions et de respecter cette forme d'accouchement que j'avais désirée. Mais il faut beaucoup de discernement pour prendre de telles responsabilités. Dès lors, mes vieilles angoisses s'estompèrent. J'avais rajeuni de 10 ans. Je ne sais pas bien expliquer pourquoi. Mais à partir de ce moment, c'est comme si je voyais plus clair. Et j'ai intitulé l'album de mon fils « La naissance de Vincent ou la renaissance de sa mère ». Pithiviers a répondu à mes besoins. Mais ne peut être considérée comme une panacée, car il y aura toujours des femmes qui préféreront la médicalisation, le maternage du personnel, l'ocytocine artificielle pour aller plus vite, la cage en verre pour longer bébé, la télécommande de la télévision, la sculpture de leur chair n'étant pas un spectacle suffisant, les infirmières masquées, casquées, beauté de blanc, l'écran vigilant, et surtout, merveille des merveilles, la péridurale qui conquiert tant d'adeptes dont je plains personnellement l'inconsciente frustration qu'est l'impuissance à mettre au monde sans assistance. Peut-être que celles qui ne veulent pas souffrir disproportionnent les perceptions. À mon avis, plus que la douleur, ce qui leur fait choisir cette option, c'est la peur. Certes, avec humilité, j'avoue mon incapacité à qualifier de « mal joli » ces lames de fond quand elles déferlent. Mais si je les supporte, c'est parce que la nature a fait en sorte qu'elles soient acceptables en libérant ponctuellement, l'endomorphine salvatrice. À Pithiviers, j'ai particulièrement dégusté. Dès le lendemain, on était aux nouvelles. J'entendis derrière la porte « Comment est-elle aujourd'hui ?» Et une voix incrédule lui répondre « Elle fait des écritures. » C'était le 1er mai. J'avais un brin de muguet dans les cheveux et radieuse, je peignais les faire-part de naissance. Cela surprenait et pourtant c'était vrai. L'accouchement avait été long. J'avais découvert le faux travail, douloureux. J'étais âgée, mais sa récupération, 2 heures de profond sommeil,
avait été spectaculaire. Je me souviens qu'à l'occasion d'une anesthésie, mon mari m'avait murmuré en se réveillant. J'étais à des millions d'années-lumière. Après 18 heures de travail, mais seulement 2 heures de sommeil, je laissais échapper en émergeant les mêmes sensations. J'avais l'impression de revenir d'une autre galaxie. Dans les deux cas, pour un même résultat, il y a eu anesthésie. Pour Guy, c'était le fruit de la chimie de laboratoire. Pour moi, c'était l'auto-anesthésie, merveilleusement générée par une centrale chimique intérieure. Comme pour tout ce qui n'est pas impulsé de l'extérieur, l'organisme, ne dépassant pas ses propres possibilités, ne connaît pas la souffrance du réveil. Dans le cas qui nous préoccupe, le creux de vague post-accouchement. À l'image d'un malade qu'on opère sous acupuncture, au lieu de l'anesthésier et qui repart sur ses deux jambes ignorant le douloureux réveil. À l'image du plongeur qui, descendant avec sa seule capacité respiratoire, ne peut connaître l'accident de suroxygénation, la mise au monde naturelle engendre une récupération immédiate. À l'inverse, un accouchement chimique assisté se paye. Tout paradis artificiel se paye. La nature qui s'est dépassée elle-même via la chimie interposée cherche à récupérer, à se reconstituer. On l'appelle la dépression postnatale. Bien qu'ayant accouché à Pithiviers, comme saint Thomas, j'attendais la déprime des semaines qui suivent, comme toutes les aînées. Elle n'est jamais venue. Je trouve que c'est une belle leçon. Alors là, on va passer à un autre témoignage qui est intitulé « La table ronde ». Par contre, je n'ai pas d'identité. Tu enfanteras dans la douleur, véritable malédiction, drame du corps des femmes. Depuis que la médecine a voulu prendre en main la naissance, la question de la douleur s'est trouvée de plus en plus contournée, pervertie. La douleur étant devenue la pathologie d'une naissance maladie, et on tente régulièrement de nous faire croire qu'avec une bonne préparation, tel ou tel remède miracle, on peut faire fi de cette douleur. Cette volonté d'occulter le problème de la douleur n'est pas seulement une omission, mais bien un mensonge, et trop souvent, l'homme a l'habitude d'utiliser le silence pour sauvegarder son pouvoir. Pourtant, il est essentiel d'écouter cette douleur, de la laisser s'exprimer, de la considérer sans complexité, d'entendre l'angoisse qu'elle contient. La douleur est un phénomène qui évolue à la frontière de la folie, de l'inconnu et de la peur, un état régressif qui peut nous sembler proche de la mort. S'abandonner, se laisser aller, s'abîmer dans ce vaste trou noir n'est pas seulement difficile pour la femme qui accouche, pour son partenaire ou pour la personne qui l'assiste, c'est également extrêmement difficile pour l'équipe médicale qui l'entoure et qui est parfois impuissante à la soulager sans recours aux médicaments. Et il est bien évident que le monde médical en général fait tout ce qui est en son pouvoir pour ignorer la douleur, de la même façon qu'il ignore la mort ou le dernier stade des maladies avant la mort, parce que cela semble remettre en cause son pouvoir. Dans l'état actuel des choses, il semble que les difficultés causées par la douleur, ne serait-ce que dans la vie relationnelle, malade, personnel, hospitalier, soient a priori insurmontables. Ivan Illich a exploré la question de la douleur dans le domaine de la médecine moderne et les problèmes qu'elle pose aux praticiens. Il conclut ainsi. Dans ce contexte, il semble actuellement plus rationnel de fuir la douleur plutôt que de lui faire face, même si c'est au prix du renoncement à une certaine intensité de vie. Il semble raisonnable d'éliminer la douleur, fût-ce au prix d'une certaine indépendance. En même temps que se développent nos moyens de résister artificiellement à la douleur, notre capacité d'apprécier les joies et les plaisirs simples de la vie diminue d'autant. Lorsqu'on se penche sur les recherches autour des rapports entre la douleur et l'accouchement, il apparaît très nettement que la voix des femmes est trop souvent absente. Partout en Occident, la femme commence à se trouver, à se découvrir, à vouloir affirmer toutes ces potentialités qui lui ont été soit enlevées, soit systématiquement cachées. C'est une forme de renaissance qu'elle prépare, non pas pour être identique à l'homme, mais pour affirmer sa propre puissance. Notre but n'est pas ici de faire l'apologie de la douleur, de prendre parti pour ou contre la péridurale. Devant l'angoisse de l'accouchement, on peut faire le choix de fuir avant tout la douleur physique, mais c'est un choix. Cette bonne fée a ses exigences. Elle nécessite des techniciens omniprésents, très entraînés, très rentabilisés. Or, on ne peut demander à une équipe d'avoir en même temps un regard sur les machines, les perfusions et un regard intimiste sur la naissance. Pour une femme, la douleur de l'accouchement ne peut être réduite à la douleur des contractions. Il y a d'autres douleurs, d'autres blessures beaucoup plus intimes qui demeurent plus longtemps. L'intervention médicale, c'est aussi de la souffrance. Pour une femme, une épisiotomie, ça n'est jamais anodin. Laisse d'ailleurs, pour ces hommes médecins, qui se font une règle d'or de couper l'organe sexuel des femmes. Cette autre douleur, c'est elle qui est traumatisante. Accoucher, c'est aussi assumer la peur, l'angoisse de voir un être vivant sortir de son propre sexe. C'est aussi du sang, de la flotte, tout un marécage. Et ce n'est pas de transformer l'accouchement en un acte hygiéniste avec étrier, rasage, lavement, sonde, épisiotomie, forceps, drap stérile et perfusion qui évite cette angoisse. Cette douleur, au contraire. Bien souvent, il va falloir assumer en plus humiliation et blessures narcissiques. C'est sans doute pourquoi des milliers de femmes fuient les usines à bébés de leur région, où éventuellement elles pourraient avoir une péridurale, pour voir préserver la sensualité de la naissance, son intensité de vie, son intimité. L'immense majorité d'entre elles gardent un souvenir euphorique de l'accouchement. Après la douleur, il ne reste plus que la fête. Dans ces pages, nous leur avons demandé de parler d'elles-mêmes en toute simplicité. Il est étonnant de constater la force de leurs mots. Le besoin qu'elles avaient de parler de ce problème. Bien que d'origine sociale extrêmement diverse et n'ayant jamais lu d'ouvrage scientifique, ces femmes évoquent souvent des thèmes tout à fait similaires avec les mêmes mots. Voici ce qu'elles disent. Souffrir dans son corps, mais non dans sa sexualité. À Pithiviers, on souffre, mais on a le droit de le dire. Le vécu de la douleur est différent. On a le droit de la vivre, de l'exprimer. Ailleurs, on n'a pas le droit de crier. On vous dit, à quoi ça vous sert? Cette douleur que l'on peut exprimer sur le moment ne prend pas valeur traumatique, car elle n'est jamais associée à des humiliations ou à ce qui peut être vécu comme des violences sexuelles, rasage, épisiotomie systématique, etc. Il me semble que l'on souffre dans son corps, mais non dans sa sexualité. Ça n'est peut-être pas la même chose pour les femmes qui passent des heures sur la table gynécologique. On peut exister en tant que femme. Cette douleur reste une douleur personnelle, elle n'est pas aggravée par l'angoisse des autres. Michel Audin est très positif pendant l'accouchement, les sages-femmes aussi. Il y a toujours un espace de solitude dans la douleur. Mais on n'est pas en plus obligé de faire face à l'imbécilité d'un système déshumanisant. La douleur est en chacun de nous. Nous la vivons à notre façon. Il n'y a pas une douleur, il y a notre douleur. La mienne n'aura pas les mêmes caractéristiques que la vôtre. La douleur, ce trou noir. Je n'ai jamais considéré la douleur que je ressentais comme une souffrance isolée et gratuite. Chaque fois que la douleur devenait très difficile à supporter, je pensais à la tête de mon bébé qui me poussait, me bouleversait, me déchirait en deux. C'était le bébé et non pas une douleur gratuite. Le fait de personnaliser cette douleur, de lui donner les traits de ce petit être adoré au fond de moi-même qui me demandait la vie, m'aidait considérablement. Ça n'était plus une bataille contre ce trou noir que peut être la douleur, mais une sorte de coopération entre lui et moi, entre mon bébé et moi. En fait, une sorte de création. L'alternance du noir et du blanc. C'était une douleur que mon corps pouvait reconnaître et reconnaissait. Elle ne me parut pas étrangère. L'intensité et la répétition étaient évidemment nouvelles et devaient être maîtrisées, mais il y avait quelque chose de tellement similaire avec les crampes des règles, du moins au début, que j'étais rassurée. Et la chose qui était fascinante pendant la naissance de Julia était la répétition, l'alternance, le fait de savoir que l'on vit la douleur quand elle est là, et puis la quiétude qui vient ensuite. C'était ce qui me sauvait. C'est pourquoi mon expérience était tellement plus qu'une expérience de douleur. Il y avait tous ces moments de repos, ces moments d'extase. On dit toujours qu'on ne se souvient pas de la douleur, que l'on ne peut pas se souvenir de la douleur physique. Je ne sais pas. Mais on peut vraiment se souvenir des autres moments. Après la naissance de Julia, tous ces autres moments sont restés. J'adore la métaphore du store vénitien. L'alternance du blanc et du noir, ou la vision et l'aveuglement. C'est comme de regarder au dehors par une fente. Le côté douloureux, ce sont les volets qui suppriment la lumière. Mais dans mon souvenir, la douleur n'existe plus, il ne reste que l'extase. J'ai vraiment ressenti une extase totale après cette naissance. Ce cri, ce rugissement. Ce qui est vraiment encourageant à Pithiviers, c'est que les sages-femmes reconnaissent qu'une femme a le droit de crier quand elle accouche. Audin parle de ce cri étrange que poussent les femmes lorsque le bébé est sur le point de naître. Les photos des naissances à Pithiviers, voilà ce qui m'a donné le plus grand sentiment de sécurité. Voir toutes ces photos incroyables partout. Le visage de ces femmes pendant qu'elles accouchent. Et je ne veux pas seulement parler de ces visages montrant l'extase, mais aussi des expressions d'effort incroyables, de réussite ou de fatigue. Je voulais entendre ce cri pour savoir. Je me souviens d'avoir, une fois, entendu quelqu'un accoucher. Et vous savez sûrement vous-même, peut-être l'avez-vous émis ce cri, ce rugissement annonçant la vie. que poussent certaines d'entre nous. Quelque chose de sexuel. Il y a quelque chose d'intéressant que je ne m'explique pas et qui concerne le genre d'énergie qu'Odan et peut-être quelques-unes des sages-femmes apportent à la naissance. C'est tellement personnel, n'est-ce pas ? Peggy, la femme qui m'a accompagnée à Pithiviers, est une grande femme, très solide, mais dont l'aide physique me faisait penser à une bouillie de coton. Avec Odan, mes réactions aux contractions, les gloussements et les gémissements que je poussais pendant ces contractions me persuadaient qu'elles étaient réellement efficaces. Je voudrais essayer de caractériser la différence entre l'aide apportée par Peggy et celle apportée par Odan. Peut-être cela provient-il de l'origine masculine ou féminine de l'aide en question. Qui sait ? Sans qu'elle soit en aucun cas érotique, c'était comme si toute mon expérience sexuelle, mon existence sexuelle, était alors en jeu. Je ne veux pas dire du tout que c'était excitant sexuellement, et cette discussion autour de l'orgasme dans l'accouchement m'irrite beaucoup, car pour moi les deux choses sont très différentes. Peut-être n'avons-nous pas encore le vocabulaire idéal pour décrire les sensations ? Et c'est sans doute pourquoi nous utilisons le mot orgasme. Mais pour moi, le niveau d'énergie qui m'envahissait tout à coup quand je me tenais debout pendant une contraction particulièrement difficile avait quelque chose de sexuel. C'était comme si les moindres fibres de mon corps vivaient à l'unisson et possédaient une force terrible. Mais il ne s'agissait pas d'une force musculaire. Tout était en jeu. J'avais l'impression d'être poussée, étirée, soulevée. Malgré mes 100 ou je ne sais combien de kilos et la partie inférieure de mon corps effectuait quelque chose d'extraordinairement efficace. Même mon poids aidait. C'est bon de sentir que le bruit, les cris, la merde sont bienvenus.
La fierté de la... Est-ce qu'il n'y a pas dans notre façon d'affronter la douleur... Je tourne la page, désolée. Quelque chose qui nous vient de notre enfance de petite fille. N'est-ce pas le corollaire de l'image des épaules masculines capables de tout porter ? Je pense à ma petite sœur qui ne supportait pas d'aller chez le dentiste. Mon père la conduisait et lui disait de serrer sa main aussi fort que possible, comme pour lui donner la douleur. Et je me souviens aussi combien cela m'irritait lorsqu'il se glorifiait en famille de ce qu'il avait dû endurer pour ma petite sœur. Il lui avait pratiquement arraché la main tant elle avait compté sur son appui. Il me semble intéressant de rapprocher cela du comportement des femmes qui se vantent d'avoir tant souffert pendant leur accouchement. La femme n'a pas réellement l'occasion de manifester sa valeur physique. L'accouchement pourrait en être une bouleversante occasion. Et cependant, en raison de la complète perversion de l'accouchement, due à l'hypermédicalisation et la mise en doute des capacités de la femme, tout ce qui lui reste est cette possibilité de se glorifier de la douleur qu'elle a dû supporter. Je rêve d'une autre génération de femmes qui se vanteront de la réussite de leurs accouchements, d'une manière et avec un langage différent, non plus à travers le filtre de la douleur, mais à travers le filtre de la fierté de leur corps de femme, et en pleine santé spirituelle et sexuelle. Elles ont une sorte de nouvelle confiance en elles-mêmes, que nous commençons à voir émerger des mouvements de femmes. Cette génération de rêves sera fière des merveilleuses sensations nouvelles qu'elles ressentiront lorsque leurs vagins s'ouvriront pour accueillir le corps de l'enfant, et elles seront fières de l'odeur étrange du nouveau-né, ou du caractère visqueux du placenta, etc. etc. Après la tourmente, après la tempête. J'avais beaucoup lu avant d'arriver à Pithiviers. D'abord parce que l'accouchement me fascine, et aussi surtout parce que j'ai vécu mon premier accouchement comme un échec total. Mais j'ai bien mieux compris ces longues lectures après le deuxième accouchement à Pithiviers cette fois. Et j'ai même appris beaucoup plus que dans les livres. Par exemple, en ce qui concerne la douleur, l'évolution des contractions a été décrite dans une science faite par les hommes, science qui a aussi, il faut le noter, défini la courbe graphique de l'orgasme féminin entre autres. J'en ai un peu marre d'ailleurs d'entendre dire que si on accouche bien, on a à la fin une sorte d'orgasme. Il ne me semble pas que les deux choses soient comparables. Pour moi, la seule ressemblance vient du fait que, dans les contractions intenses comme dans l'orgasme, on arrive après un temps indéterminé à un accomplissement de soi. C'est un moment où l'on est complètement ailleurs, où l'on atteint un autre état de conscience. Mais je reviens à mon idée. Dans les deux cas, les femmes s'acharnent à faire correspondre le plus possible leur véritable expérience au schéma officiel. Encore une fois, les médecins nous imposent leurs normes. Et en même temps, toutes ces angoisses qui augmentent la douleur, qui augmentent le besoin d'intervention médicale, et ainsi de suite. Pour ma part, le travail ne s'est pas déroulé comme dans les livres, comme j'aurais voulu. J'ai eu 3 jours de contractions inefficaces avant qu'Odan ne le reconnaisse, ne reconnaisse que j'avais vraiment de fortes contractions. Fortes, elles l'étaient tellement
qu'elle me jetait parfois à quatre pattes sur le trottoir, où j'avais été envoyée me promener avant que le vrai travail commence. Et quand, après cela, on m'a annoncé que le vrai travail n'avait pas commencé, j'ai été sidérée. Après avoir subi tant de souffrances, qui avaient toute l'apparence d'un travail normal, je me suis sentie énigmatique. Je me suis sentie, pardon, devenir folle de rage, quand Oudan avait dit à ma mère, avec son sourire énigmatique, « She's not in labor. » Qu'est-ce qu'il en savait ? Il avait tort, tout à fait. Qu'est-ce qu'il en savait des femmes ? Après tout, je l'injuriais, seule dans les WC. Un instant, je pensais rentrer à Paris. Mais quand le bébé est finalement arrivé, si terriblement vite, j'ai vu qu'il n'avait pas tout à fait tort. Ces contractions si fortes qui me firent atteindre ces fameux 10 cm de dilatation en une heure et demie étaient d'une intensité si féroce que je me sentais proche de la folie. Je me souviens avoir amené un Walkman avec mes morceaux préférés de Bach. Mais je ne pouvais même pas supporter cette musique. J'avais soudain tout jeté par terre. Je ne pouvais pas surmonter cette douleur, ni la dompter par un quelconque moyen. C'était un match de catch, moi contre cette douleur. Mon corps roulait par terre, grimpait sur les chaises, sur les lits, sur mon mari ou sur ma mère, dans un état de conscience tout à fait autre, dans un ailleurs où l'on entend à peine qu'on vous parle. Je ne sais même pas comment j'ai pu franchir, à pied, la courte distance entre notre chambre et la salle d'accouchement. Tout allait tellement vite, dans le désordre. La douleur m'envahissait, me noyait complètement. Mais le calme qui nous enveloppa tous quand le bébé fut enfin dans mes bras fut lui aussi impressionnant. À Pithiviers, ces longs moments où personne ne vient nous déranger peuvent durer des heures entières, moments d'intimité si précieuse, avec devant soi cette boule de chair et de sang qui vient juste de naître. Ces souvenirs me restent, la douleur qui me torturait, et à l'inverse, le calme intense lui aussi, qui nous envahissait, mon mari, ma mère, notre bébé et moi, juste après la tourmente, après la tempête, et finalement, la sérénité d'avoir tout accompli, et si bien. Je vous remercie de m'avoir écouté, et puis, un prochain épisode. Pour la suite, on passera au chapitre 7, Mettre au monde, donner la vie. À bientôt.